Jean-Bernard Leroy, voici donc mon exposé juste avant Pâques. Je parlerai du XVIe siècle. On pourrait quelquefois qualifier ce siècle de volcanique, car une crise majeure secouait la chrétienté. Le siècle précédent s'était achevé avec la prise de Constantinople par les Turcs et la découverte de l'Amérique. L'équilibre du monde était profondément modifié. Parmi les grands royaumes européens, la maison d'Autriche, liée à l'Espagne qui venait de conquérir l'Amérique, était fermement attachée au catholicisme, tandis que l'Angleterre virait au protestantisme. Les Scandinaves faisaient de même. La France se noyait dans un dédale d'intrigues menées souvent par des hommes de valeur, mais instables. Le catholicisme se trouvait tiraillé entre une Sorbonne gardienne rigoureuse du passé, comme fossilisée par tel ou tel écrit, et ce que l'abbé Huvelin appelle un catholicisme polisson, se targuant d'une foi solide, mais menant souvent à une vie déréglée, pour ne pas dire dissolue. Prenons l'exemple du roi Henri II. Son épouse catholique Catherine de Médicis souffrait beaucoup des honneurs dont il couvrait sa maîtresse Diane de Poitiers. Henri II se méfiait des suggestions politiques de son épouse qu'il comparait à Machiavel. Il cherchait à lutter contre Charles Quint, qu'il accusait de vouloir étrangler son royaume tout en combattant comme lui les luthériens et les calvinistes. Une politique de bascule. Henri II occupa les trois évêchés, Metz, Toul et Verdun, et se concentra sur les frontières du nord et de l'est. Il a aussi lutté contre les Anglais. Il a repris Calais. Mais au traité de Cateau-Cambrésis, il dut abandonner l'Italie à l'influence espagnole. On est devant un véritable imbroglio politique. D'autres personnalités s'illustrèrent. François de Guise a défendu vaillamment le royaume contre les nobles français qui, pour lutter contre les catholiques, avaient appelé les Allemands à leur aide et qui envisageaient même de livrer le Havre à l'Angleterre. Rien n'est simple dans ces guerres de religion où la politique est toujours présente pour le meilleur et pour le pire. Prenons un autre exemple. Un grand magistrat relativement peu connu, Michel de l'Hôpital, il chercha tous les moyens pour apaiser les luttes religieuses dans le royaume. Il avait beaucoup de respect et d'amour pour la religion. Il s'élevait contre le luxe des femmes, disant « Comment passer pour être honnête quand on se donne l'air de ne pas l'être ?» Ça, il est exact que souvent les modes de prostituées deviennent des modes de femmes du monde, comme par exemple le rouge à lèvres. Une remarque qui n'a rien perdu de sa pertinence de nos jours. Il fut l'auteur d'un édit sur la tolérance, cherchant de nouveaux moyens pour limiter les dégâts, comme on le dit familièrement. Il a écrit « L'amour de la religion doit exister chez le roi, ainsi que sa justice envers les hommes. Il faut combattre l'hérésie, mais en la conciliant toujours avec la charité pour ne pas blesser la justice ni la protection qu'un roi doit à ceux de ses sujets qui ne sont pas rebelles. » Tout ça, ça ressemble un peu au galimatia qu'on entend actuellement. Cela est extrêmement vrai, mais il faut rappeler que le Concile de Trente reste l'expression de la foi catholique. On ne peut soutenir que le Concile n'oblige en rien la France, ni que l'Espagne dicte ses lois au pape. Certes, il est vrai que la question des âmes ne peut être traitée par le fer, mais ce n'est pas pour autant qu'un concile national puisse régler les questions de foi, ce que l'Hôpital et Catherine de Médicis avaient envisagé. Ils avaient envisagé qu'un concile national pouvait prendre des décisions disciplinaires, telles que la communion dans la main, la messe en français, voire le mariage des prêtres. Un concile national n'a pas tous ses pouvoirs. Un colloque se tint à Poissy en 1560, mais les théologiens ne manquèrent pas de faire remarquer qu'une telle assemblée n'avait aucune autorité en la matière, allant jusqu'à écrire au roi que ce n'était pas à lui de décider des choses de la foi. Pendant le même temps, les protestants se divisaient en de multiples sectes, du coup, un certain enthousiasme renaissait chez les catholiques, qui finalement ont accepté les décisions du Concile de Trente. Il y a une différence réelle entre l'enthousiasme catholique et l'enthousiasme protestant. L'adhésion catholique est le fait d'une âme qui saisit toutes les conséquences de l'incarnation, de la rédemption, de l'amour de Jésus, et répond à cet amour par un acte d'obéissance et de profonde subordination. L'enthousiasme protestant correspond moins à un acte d'obéissance qu'à une profession de foi relevant d'une inspiration directe. Il se situe à un niveau plutôt intellectuel. Le but du prêtre catholique est moins de discuter, voire d'ergoter, que de parler aux âmes individuellement, plutôt que de poser des questions métaphysiques. Les guerres de religion ne furent pas exclusivement politiques, bien que la raison d'État ait joué un grand rôle. Si l'État est catholique, ses lois se doivent de défendre cette doctrine. Les protestants sont considérés comme des rebelles. Mais si la société est mêlée de catholiques et de protestants, les lois doivent en tenir compte et admettre les croyances acceptables pour la vie civile. En fait, le gouvernement du Royaume de France chancelait entre la faiblesse et l'excès de violence. Pie V, qui régna de 1566 à 1572, en tant que pape, prit des mesures de rigueur qui le firent accuser d'être l'auteur de la Saint-Barthélemy, bien que ce massacre eut lieu un an après sa mort, et causa chez Michel de l'Hôpital un désespoir qui, dit-on, lui coûta la vie. Mais les dites mesures de Pie V étaient d'ordre clérical et non civil. Notons en passant que, pour atroce qu'il fût, le massacre de la Saint-Barthélemy ne fut pas le seul, ni même le premier. On ne parle guère des Michelades, qui ont lieu 5 ans auparavant. Une centaine de catholiques, surtout des prêtres et des moines, avaient été massacrés à Nîmes par des protestants en 1567, le jour de la Saint-Michel. Les églises et plusieurs cimetières portent encore de nombreuses traces de diverses exactions de vandalisme faites au nom du protestantisme. Avec la Révolution, les guerres de religion sont les facteurs de dégradation les plus importants de notre patrimoine. Pie V reconnaissait lui-même qu'il est difficile de ramener à la foi ceux qui se sont éloignés du catholicisme. Toutefois, certaines mesures doivent être prises, même si elles ne sont pas explicitement inscrites dans les textes du Concile, en particulier concernant la discipline du clergé. Si les persécutions incitent souvent à la sainteté, force est de reconnaître que les périodes plus calmes entraînent souvent un certain relâchement, cause fréquente des hérésies et des schismes. Un cardinal a prêché « Si vous voulez éteindre le foyer de l'hérésie dans un royaume, il faut commencer par extirper les vices, encourager davantage les évêques à rester dans leur diocèse, à veiller avec plus de soin au salut des âmes, à restaurer la vie sacerdotale en réformant le clergé. Alors, les laïcs deviendront meilleurs et ceux qui se seraient égarés dans des voies étroites ouvriront les yeux. » À cette pieuse homélie sacerdotale, qu'il me soit permis d'ajouter un modeste codicille. Nous tenons à avoir des prêtres parfaits, nous sommes prêts à nous plaindre de leurs insuffisances, mais pensons-nous suffisamment à les remercier et à prier pour eux? Ce n'est que grâce à eux que nous pouvons communier et nous confesser. Nous, catholiques, sommes d'incroyables privilégiés dans notre vie spirituelle grâce aux quelques prêtres qui nous consacrent leur vie. Il faut le répéter et prier pour en avoir et pour les garder. Au cours de ce concile, il fut débattu de l'organisation de l'index. Contrairement à ce qui se dit souvent, une inscription à l'index ne signifie pas une condamnation, mais une mise en garde. Tel ouvrage ne peut être lu en l'absence d'une aide spirituelle. La Bible était à l'index en raison de nombreux passages qui, au premier coup d'œil, peuvent scandaliser par leur violence ou leur caractère sensuel. Citons les épouvantables massacres de la conquête de la Terre Sainte. Ils ont passé au fil de l'épée, y compris les vieillards, les femmes, les enfants, les brebis et les ânes, est-il écrit au chapitre 6 du livre de Josué. Citons aussi l'ardeur de Salomon, qui selon le chapitre 11 du livre des Rois, eut 700 épouses de rang princier et 300 concubines. Nos hommes politiques sont loin du compte. Pour des âmes simples, le cantique des cantiques n'est qu'un poème érotique, etc., etc. Pour lire la Bible, il faut un conseiller derrière. Le Concile a aussi demandé la multiplication des congrégations enseignantes et des séminaires. Les jésuites se montrèrent spécialement serviables, mais la Sorbonne les jugeait plutôt entreprenants. Nous reviendrons sur cette question des jésuites de la jalousie qu'ils ont suscitée. La Sorbonne les accusait de chercher une conquête idéologique. Elle mettait en avant les libertés gallicanes en les combattant, pensant ainsi préserver le royaume de France. Cette méfiance était très étendue de par le monde, c'est ainsi qu'ils furent écartés de l'apostolat de la Chine. Il fallut attendre ces toutes dernières années pour voir le premier pape jésuite. La France fut très marquée par le gallicanisme, en particulier au XIXe siècle. Il suffit de citer le nom de Lamennais. Je souhaite à chacun de bonnes et joyeuses Pâques, alors que le soleil continue à monter dans le ciel.